VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 28 décembre 2018. Dans une interview exclusive en Swahili à la Voix de l'Amérique, le président congolais Joseph Kabila confirme la tenue du scrutin dimanche. En République démocratique du Congo, la police a dispersé des manifestants à Goma et Butembo. Le Qatar a fait don de 24 véhicules blindés au Mali. Manifestation réprimée par la police au Soudan. Donald Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique si les démocrates refusent de financer la construction d'un mur. La Minute Écho et les sports, ce sera juste après le journal. Le président congolais Joseph Kabila défend la décision de son pays d'organiser les élections dimanche à la suite d'une série de retards et d'un incendie qui a détruit des milliers de machines à voter à Kinshasa. Le point avec Lionel Gaïma.
Dans une interview exclusive hier soir avec le service swahili de VOA, le président Joseph Kabila a déclaré qu'il ne voyait aucune raison pour que le vote du 30 décembre ne se déroule pas comme prévu. Selon lui, la commission électorale est prête et a mis en place ce qu'il appelle une sécurité totale. Il a ajouté que les responsables ont depuis reçu tout l'équipement nécessaire pour mener ces élections. M. Kabila a également défendu la décision de la CENI de reporter au mois de mars le vote dans les districts de Beni Butembo, où l'épidémie de fièvre Ebola a fait plus de 300 morts. Nous utilisons des ordinateurs, a déclaré M. Kabila. Cela signifie que tout le monde va voter en touchant l'écran et il sera donc facile de propager le virus Ebola. Le chef de l'État congolais a réitéré son soutien à son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun, la coalition au pouvoir.
Bilan mitigé de l'appel de la coalition Lamouka à une journée ville morte en RDC contre le renvoi à mars 2019 des élections à Beni, Butembo et Yumbi. À Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, les activités ont tourné normalement, mais l'appel a été suivi dans certaines villes de l'Est avec des manifestations. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Timide dans la matinée, la journée a vite pris ses allures habituelles à Kinshasa. Transport, commerce, circulation, les activités ont retrouvé leur rythme habituel peu avant midi dans la capitale. L'appel de la Mouka semble n'avoir pas été suivi également à Kisangani, à Lubumbashi et dans le Kasai, où les activités ont tourné normalement. À Beni, Butembo, Goma et à Bunia par contre, des manifestations ont été signalées et les activités sont restées paralysées toute la journée. À la Commission électorale nationale indépendante, pendant ce temps, on dément la suppression annoncée de 1000 bureaux de vote à Kinshasa. Mais le rapporteur que nous avons joué reconnaît que suite à un nombre limité de machines à voter, quelques bureaux sur les 7939 initialement prévus dans la capitale seront supprimés. Signalons par ailleurs, toujours en rapport avec les élections, qu'une réunion se tient ce vendredi à Kinshasa entre la CENI, la délégation de la SADC et les candidats présidents de la République. Kinshasa. Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En République du Congo, la cour d'appel a renvoyé aujourd'hui devant la cour criminelle de Brazzaville André Okombi Salissa, candidat malheureux à la dernière présidentielle, accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. Son procès est imminent selon son avocat maître Yvon-Éric Ibouanga. L'opposant a vécu dans la clandestinité avant d'être arrêté le 10 janvier 2017. Il est toujours gardé à la Direction générale de surveillance du territoire, a précisé son avocat. Nouvelle manifestation au Soudan où la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de protestataires près de Khartoum. Les précisions avec Timothée Donangmaï.
Sortie d'une mosquée d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, environ 400 manifestants ont commencé à chanter après la grande prière du vendredi. Les forces de sécurité, à bord d'une trentaine de véhicules tout-terrain, sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour les disperser. D'autres manifestations ont été signalées dans le nord de Khartoum, ainsi qu'à Atbara, ville de l'Est, berceau du mouvement de contestation. Selon les groupes de la société civile ayant appelé aux manifestations de ce vendredi, 9 leaders de l'opposition ont été interpellés la veille, y compris Sidik Youssef, un haut responsable du Parti communiste soudanais. Le chef des services de renseignement soudanais a dit n'avoir pas connaissance de ces arrestations. Cela fait plus d'une semaine que le Soudan est secoué par des mouvements populaires contre la cherté de la vie. Selon le bilan officiel, 19 personnes ont péri dans ces manifestations, y compris 2 militaires. Mais Amnesty International a fait état d'au moins 37 morts.
Les Ghanéens ont approuvé à 95% le nouveau découpage administratif du pays en 16 régions au lieu de 10, selon les résultats d'un référendum publié par la commission électorale. La mesure est destinée à favoriser le développement de zones reculées. Le vote s'est déroulé la veille dans 47 districts dans un climat apaisé, a déclaré Martin Adjé Mensa, secrétaire d'État pour la réorganisation régionale. Le Qatar a fait don de 24 véhicules blindés au Mali. Il y aura désormais une coopération permanente entre nos armées dans le domaine de la formation, de l'équipement, des unités et des échanges entre militaires des deux pays, a déclaré à la presse le général Al-Ghafari à la tête d'une délégation qatari reçue à Bamako.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
311 migrants secourus il y a une semaine au large de la Libye par une ONG sont finalement arrivés ce matin en Espagne. L'Italie et Malte avaient refusé de les accueillir. John Linden nous en dit plus.
Après être restés une semaine à mer à bord du navire Open Arms sur lequel ils ont célébré Noël, ces migrants ont crié et applaudi à leur arrivée dans un port espagnol. Mission accomplie, a lancé le fondateur de l'ONG, Oscar Camp, sur Twitter. Pour Vicente Raimundo, directeur des programmes d'intervention en Espagne de l'ONG Save the Children, parmi les 139 mineurs à bord du navire de l'ONG espagnole, Proactiva Open, certains viennent de pays en guerre comme la Somalie, la Syrie, le Nigeria ou du Mali. Secourus le 21 décembre, ils ont été refusés par l'Italie et Malte. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a accepté de les laisser débarquer en Espagne. Selon Madrid, la Libye, la France et la Tunisie n'avaient pas répondu non plus à la demande d'accueil. L'Espagne est devenue depuis cet été la première porte d'entrée des migrants illégaux en Europe, devant la Grèce et l'Italie. Plus de 56 000 migrants sont arrivés par la mer depuis le 1er janvier. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 769 sont morts pendant la traversée de la Méditerranée.
Le président américain Donald Trump a menacé de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique si les démocrates du Congrès n'acceptaient pas de financer la construction d'un mur. Ce différend a déjà provoqué la fermeture partielle de l'administration fédérale. Le point avec Idriss Fall.
Nous allons être contraints de fermer la frontière sud complètement si les démocrates obstructionnistes ne nous donnent pas l'argent pour terminer le mur, a tweeté le président Trump en leur demandant également de changer les lois ridicules sur l'immigration dont notre pays est affublé. Poursuivant une série de tweets, il a réitéré sa menace « Nous construisons un mur ou nous fermons la frontière sud ». En novembre, il avait déjà menacé de fermer la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Le financement de ce mur est encore très loin d'être assuré. Au Congrès, les négociations entre démocrates et républicains sont au point mort. L'impasse budgétaire continue, ainsi que son corollaire, le shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales. Des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage forcé, pendant que d'autres employés fédéraux jugés essentiels vont au travail sans être payés pour le moment. Ce blocage risque de se prolonger au moins jusqu'à la semaine prochaine.
Le gouvernement espagnol a adopté un projet de loi visant à allonger le délai de prescription pour des violences commises contre des mineurs. Ce délai ne devrait commencer à courir qu'à partir des 30 ans de la victime et non de ses 18 ans, comme c'est le cas actuellement. Cette modification du code pénal doit être approuvée par le Parlement. Le texte inclut de nouveaux délits commis sur Internet, comme l'incitation au suicide ou à se livrer à des activités sexuelle. Par ailleurs, les conditions de libération pour les personnes incarcérées seront durcies. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
L'Algérie a adopté sa loi de finances 2019, marquée par un maintien du haut niveau des dépenses sociales et par l'absence de nouvelles taxes. La loi table sur des recettes quasi identiques à 2018, à environ 40,3 milliards d'euros, dont 20 milliards de fiscalité pétrolière. Le déficit budgétaire s'établit à quelque 15 milliards d'euros, soit environ 10% du PIB, en très légère baisse de 3,9% par rapport à 2018. En 2019, la loi de finances mise sur une croissance de 2,9% avec une inflation à 4,5% et une poursuite de la fonte des réserves de change. Au Nigeria, la société pétrolière Shell a pris sa décision finale d'investir pour un important projet gazier à Sanof dans l'état d'Imo. À pleine puissance, le projet produira 300 millions de pieds cubes standards de gaz par jour, principalement pour le marché intérieur. Sanof jouera ainsi un rôle important dans les plans du gouvernement visant à développer le marché du gaz pour répondre à la demande industrielle et promouvoir l'accès à l'électricité pour tous. Pour finir, en 2018, le café et le sucre ont peiné en raison de récoltes abondantes. Depuis le début de l'année, la tonne de sucre blanc a perdu 14,7% à Londres et la livre de sucre brut a reculé de 18,2% à New York. Le café a lui aussi souffert d'une récolte abondante. La tonne de café en général a reculé de 11,5% à Londres sur l'année, tandis que la livre d'Arabica a cédé 18,7% à New York. Le cacao s'est en revanche démarqué et s'inscrit en hausse sur l'année en raison d'une demande soutenue. Les prix du cacao ont gagné de plus de 25% sur l'année à Londres comme à New York.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alexandre Song s'engage dans l'humanitaire.
Oui, l'international camerounais, sociétaire du FC Sion en Suisse, est désormais supporter au profit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a reçu ce titre honorifique hier à Yaoundé. Que va-t-il faire concrètement en faveur de plus de 665 000 réfugiés recensés au Cameroun? La réponse d'Alex Song.
On a un planning qu'on doit essayer de bonifier pour 2019. Là, nous sommes en train de travailler dessus. On va essayer d'aller sur le terrain, partager, essayer de redonner un peu d'envie à ceux qui ont perdu un peu cette envie de donner du sourire. Parce que vous savez, ils vivent des moments difficiles. Moi aussi, je viens de nulle part. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, moi, je suis prêt à donner de ma personne. Je suis prêt à donner au-delà. Il n'y a pas seulement des vivres.
Roger Lemaire, nouvel entraîneur de l'Étoile sportive du Sahel.
Oui, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, âgé de 77 ans, a signé un contrat d'une année et demie renouvelable, indique Kaïs Achour. Il est le porte-parole de l'ESS. Sans donner d'autres détails, Lemaire, qui avait remporté en 2014 la Coupe de Tunisie avec l'Étoile sportive du Sahel, remplace le Belge Georges Likens, limogé fin novembre par l'Étoile. Moins de deux mois après son arrivée à Souche, adjoint d'Aimé Jacquet lors du Mondial 98 remporté par la France, Lemaire avait été sacré champion d'Europe avec le Bleu en 2000, avant d'être démis de ses fonctions après le fiasco de la Coupe du Monde au Corée 2002.
L'Inter a été sanctionné pour les cris racistes proférés contre Kalidou Koulibaly.
L'Inter Milan va disputer donc deux matchs à huis clos à San Siro comme sanction contre les cris racistes qui ont visé le défenseur sénégalais de Naples. L'annonce a été faite par l'instance disciplinaire de la Ligue italienne de football. Lors de ce match remporté 1-0 par l'Inter, l'international sénégalais Khalidou Koulibaly a été la cible des cris de singe à plusieurs reprises. notamment au moment de son expulsion pour un deuxième carton jaune. Le même communiqué précise que Kalilou Koulibaly sera lui-même suspendu 2 matchs après son expulsion. La première journée de suspension est liée à une accumulation de cartons jaunes.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. J-2 pour les élections générales en République démocratique du Congo. L'appel à la journée ville morte par la coalition Lamouka de l'opposant Martin Fayoulou n'a pas été vraiment suivi à Kinshasa. Les activités se sont déroulées normalement dans la capitale congolaise, a constaté notre envoyé spécial Abdourahmane Dia.
Un tour à Gombe, en plein centre-ville, les transports en commun et les taxis circulent normalement, les banques sont ouvertes et les revendeurs de cartes téléphoniques sont entourés par des clients. Quelques kilomètres plus loin et nous sommes à Limété. Là aussi, les populations vaquent à leurs occupations. Ces habitants, dont certains se réclament de l'opposant Félix Tshisekedi, nous disent pourquoi le mot d'ordre n'a pas été respecté.
Nous n'avons pas observé, on a entendu parler qu'il y avait ville morte, mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien. Toutes les activités se déroulent comme normalement. Il n'y a aucun signe qui prouve qu'il y a ville morte.
Oui, dans notre partie, le feu vert n'est pas donné, donc nous n'avons pas reçu les mots d'ordre pour rester à la maison. Nous n'avons pas reçu le feu vert. Pour eux, ils ont trouvé que c'était bien de rester à la maison, mais pour nous, nous avons trouvé non. L'essentiel, c'est d'aller aux élections le dimanche avec ou bien sans béni. Donc, nous ne sommes pas des soldats de ville morte. Nous sommes concentrés pour les élections le dimanche.
Dimanche, nous irons voter, même avec la machine à coudre. Je dis bien, même avec la machine à coudre, nous irons voter.
Ensuite, nous avons rencontré 2 partisans de Martin Fayoulou, dont la coalition avait appelé à la journée ville morte. Ils reconnaissent que le mot d'ordre n'a pas été bien respecté, mais tentent de justifier.
Nécessairement, la journée a été bien respectée. Malheureusement que l'information n'a pas pu circuler comme il faut, mais ceux qui ont été informés, ils ont quand même pu respecter.
Oui, effectivement, parce que les messages n'étaient pas vraiment passés à tout le monde. C'est pour cela que vous voyez ces gens. Certaines personnes ils sont surpris le matin qu'il y avait une annonce qu'on devait avoir une ville morte aujourd'hui. Si on avait préparé ça pendant une journée, ça pouvait marcher.
La majorité présidentielle avait appelé les populations à vaquer à leurs occupations ce vendredi, mais quelle que soit l'affiliation politique, les Kinois semblent plutôt avoir les yeux rivés sur le scrutin de dimanche et la fête de Saint-Sylvestre le lendemain du vote. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Deuxième journée de tension à Goma, capitale du Nord Kivu. La journée ville morte appelée par la coalition Lamouka s'est vite transformée en journée de manifestation et paralysie d'activité dans plusieurs villes de l'est de la République démocratique du Congo. À Goma, la police et l'armée se sont confrontées toute la journée aux manifestants dans le quartier Majengo, où des arrestations ont été effectuées. Le point avec notre correspondant Charlie Kazereka.
La police et l'armée ont utilisé des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser les foules des manifestants tout l'avant-midi dans les rues de Goma, d'où l'on signale d'ailleurs quelques arrestations. Dans la mi-journée, une forte pluie s'est abattue sur la ville, ce qui a un peu calmé la tension observée surtout dans les quartiers situés vers le nord de la ville. Chance Matal et Moïsa, l'un des manifestants, explique qu'il quittera la rue les jours où la CENI reviendra sur sa décision.
Qui lève un hamas. Nous disons qu'il lève immédiatement cette décision d'exclure une partie de la République à voter. Parce que voter pour tout le monde, on va s'arrêter quand on va écouter le gouvernement.
Les activités commerciales sont restées paralysées dans une partie de la ville de Goma vers le nord. C'est Aximène Moto. Mais c'est Katem Bojan souhaiterait voir la police gérer les manifestations d'une manière professionnelle.
Nous manifestons calmement, mais quand la police vient avec le but de nous disperser brutalement avec des engins, cela trouble notre marche pacifique.
Au nord de la province, dans la ville de Beni et Butembo, la situation était aussi tendue pour cette deuxième journée des manifestations. Toutes les activités paralysées. L'on signale d'ailleurs un blessé par balle parmi les manifestants à Beni. Dans l'après-midi à Goma, le calme est revenu timidement dans les quartiers réputés chauds, mais le dispositif sécuritaire de la police et de l'armée est toujours visible avec des patrouilles mobiles. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'éjaculation précoce. Selon la Société internationale de médecine sexuelle, c'est l'un des troubles sexuels les plus fréquents chez les hommes. Pour en parler, nous recevons comme invité le docteur Vangu Lutete. Il est sexologue et enseignant à Kinshasa, la capitale congolaise. Il nous expliquera comment faire quand on en souffre. Nous écouterons aussi le témoignage de Josué, une victime. Il nous racontera l'impact de ce dysfonctionnement dans sa vie. Nous avons aussi recueilli les réactions de quelques femmes. Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel. Ne manquez pas le rendez-vous.
Le président burundais Pierre Nkurunziza a réaffirmé dans une émission publique ce vendredi qu'il ne se représentera pas à l'élection de 2020. Il ne se rétractera pas sur sa décision prise en 2015, a-t-il assuré. Selon lui, il n'est pas le seul à même de diriger le Burundi, mais d'autres sont en mesure de briguer le fauteuil présidentiel. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, a tendu le micro à des habitants de la capitale pour connaître leur point de vue sur cette question.
Pour la deuxième fois, le président Pierre Nkurunziza n'a pas mâché ses mots. Il ne va plus se représenter pour briller un autre mandat à la tête du Burundi en 2020. Alors que cette mesure avait poussé certains Burundais à être réticents sur sa déclaration, de nombreux Burundais affirment que cette décision honore le numéro un Burundais. Mais ce Burundais qui a requis l'anonymat n'y croit pas malgré la réaffirmation du président Nkurunziza.
Moi, je ne crois pas personnellement, parce qu'il y a une année qu'il a déjà annoncé ça. Il aurait déjà propulsé quelqu'un du parti qui aurait déjà sillonné le pays et la sous-région ou s'adressé à beaucoup de communautés, qui aurait déjà, à mon entendement, tracé les grandes lignes du nouveau changement social qu'il va apporter au pays. Donc, son successeur serait déjà visible et audible.
Mais il a dit, ça fait la deuxième fois qu'il le dit.
Bon, vous savez, il a dit beaucoup de choses, mais on attend toujours.
Mais pour cette dame, mère de trois garçons, cette nouvelle annonce est une bonne chose pour le peuple burundais, surtout que l'on sait que la majorité des dirigeants africains quittent rarement leur fauteuil une fois installé Virginie Mutore.
Ma réaction, c'est comme tous les Burundais, ça nous fera plaisir. Premièrement, il avait le troisième mandat, alors qu'il a dit qu'il ne peut pas se présenter comme président. C'est un beau geste pour le peuple burundais. Depuis 2015, il y a eu des problèmes contre le troisième mandat, alors je crois qu'il vient de terminer son mandat, c'est un beau geste. Hein. Je crois que c'est bien pour nous, les peuples burundais. Les présidents des Africains n'aiment pas quitter le pouvoir. Comme il a accepté de quitter ce pouvoir, c'est bon pour les peuples.
Pour ces deux autres Burundais dans le quartier cosmopolite de Biza, au centre de Bujumbura, cette décision de ne pas briller en quatrième mandat honore le président burundais.
Si j'entends la parole de son excellence le président, il a bien prononcé, c'est mieux pour la population, nous acclamons la parole de son excellence. Parce qu'il a bien dit qu'il n'a pas allé aux élections en 2020.
C'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose.
Le président de la République, c'est un homme très respectueux. Je pense qu'il ne va pas revenir sur cette décision. Autrement dit, donc, s'il a confirmé qu'il ne va pas se faire rayer aux élections prochaines, je pense qu'il doit rester ferme sur ses propres décisions. J'aime bien que la population burundaise, la majorité sera satisfaite de la décision, d'autant plus que c'est une question de rotation de la présidence.
Beaucoup d'observateurs interrogés par VOA Afrique ont affirmé que l'ambiguïté sur sa participation aux élections de 2020, qui pourrait lui donner le droit de briller deux autres mandats de 7 ans, vient d'être levée. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui vous convie du lundi au vendredi à une édition spéciale sur les élections en République démocratique du Congo. Rendez-vous tous les jours avant et après les élections en RDC à 17h45, 18h45, 19h45 temps universel et dans le matinal pour des reportages, analyses et réactions des citoyens ordinaires et toute la classe politique. Le dimanche 30 décembre, jour du scrutin, nous vous proposons 3 éditions spéciales. De 14h30 à 15h temps universel, de 18h30 à 19h temps universel et de 20h à 21h temps universel. Nous aurons aussi 2 éditions spéciales en Lingala de 14h à 14h30 temps universel et de 16h à 16h30 temps universel. La Voix de l'Amérique toujours à votre service pour une information juste et équilibrée. Écoutez VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, le Tennessee ne serait pas ce qu'il est sans la musique country avec le fameux son du banjo. Ces sonorités peuvent sembler faciles à produire, mais en réalité, tout est minutieusement orchestré et le choix des matériaux est très soigné pour la création d'un instrument de qualité. Lesia Bacalets s'est rendue à Memphis, où elle a rencontré 2 amoureux du célèbre banjo. Écoutons son reportage rendu par Lionel Gaïma.
Vraiment, le banjo est l'instrument américain. Il a été fait par les 2 cultures, noire et blanche, qui se sont réunies pour produire cet instrument.
Avec son mentor, Tom George, Christian Stanfield fabrique des banjos depuis des décennies. Pièces en bois, cordes, anneaux en métal doré et autres, une centaine de matériaux entrent en ligne de compte dans la fabrication du banjo. Tout se fait minutieusement à la main, comme l'explique Christian Sandfield.
Il y a 2 parties distinctes. Il y a la partie ronde que nous appelons la jante. Elle est en fait appelée le pot quand elle couvre toute cette partie au-dessus. Mais vous avez la partie ronde et vous avez la partie droite et elles se font séparément.
Le corps de l'instrument se compose de plusieurs couches de bois, Christian Sandfield.
Je le transforme en petits morceaux comme ça et je le mets dans une boîte à vapeur, ce qui le rendra très mou. Et puis, je vais le mettre sous cette forme et il sera effectivement en mesure de plier sans se casser.
Quand la jante est prête, c'est alors le tour de Tom George d'entrer en action avec le polissage. Depuis très longtemps, il enseigne les secrets de la fabrication du banjo à Stanfield. Tom George est l'un des fabricants de banjo connus aux États-Unis.
Quand j'étais adolescent, je voulais un banjo. Alors, j'ai tondu le gazon de mes voisins pour obtenir de l'argent afin de m'en acheter un. Et celui que j'ai acheté n'était pas très bon. Je me suis alors dit que je pouvais peut-être l'améliorer et c'est ce que j'ai commencé à faire.
Il faut environ 4 à 6 mois pour fabriquer un banjo. Les musiciens et fabricants travaillent alors sur plusieurs instruments en même temps. Au bout du processus, ils se donnent à cœur joie à ce qu'ils aiment, jouer du banjo.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, cet échec Thierro. À la console, Souleymane Tarawale. À la présentation, c'était Nathalie Barge. On reste bien sûr en contact sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bon week-end et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.
Go, no one knows where to find it. And the river starts to flow inside the clouds of misty mountains. The water from this stone below becomes a blue-green fountain. As the southern wind sings again, and I love the bayou.